ouvert la nuit.
Chaque soir, on vous attend dans notre salon.
Tania de Montaigne.
Et on n'est pas tout seul.
Bonsoir.
Alexandre Hérault.
Alors Elisabeth Carr, on vous a vu tout à l'heure.
C'est vrai, il y a des écrivains, des musiciens, des comédiens, des éthologues.
Des ethnologues, des dessinateurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
Et j'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Déconcertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter. La différence.
Et pour nous, c'est ouvert le jour, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, voilà, c'est la première fois que je laisse un message sur le répondeur, donc je suis un petit peu émue. Je suis un prof de maths à la retraite et je souffre de voir comment petit à petit notre école de la République devient moribonde. Voilà, j'ai rencontré il y a 2 jours un ex-collègue qui va se faire opérer, pas de remplaçant. On va risquer d'embaucher un vacataire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a sans doute jamais enseigné. Or, faire un cours de maths en terminale S, ça ne s'improvise pas. Une autre ex-collègue part à la retraite fin 2011. On sait ça depuis 6 mois au moins et on ne sait pas encore comment elle sera remplacée. Alors voilà, ces 2 petits exemples dans le même lycée d'une ville moyenne de France. Et qu'en est-il ailleurs? Comment se fait-il que les parents d'élèves qui payent leurs impôts et qui ont droit à une éducation de qualité ne font pas le siège des rectorats? Je ne pense pas que la petite Sarkozy, si elle était en TS, aurait droit à un vacataire. Eh bien, moi, je propose qu'on dissimule le mot égalité sur tous les frontons des écoles de la République. Voilà, c'était Annie. Je suis très, très en colère et très émue. Au revoir, Daniel.
Bonjour à tous. Prochain repère de là-bas si j'y suis, ce mardi 29 novembre à Pont-sur-Yonne, au Baroque Café, à 20h, au 4 rue du Pont. Suite à l'émission de François Ruffin, nous aborderons les thèmes libre-échange ou protectionnisme et quel protectionnisme, lequel et pourquoi faire. Rejoignez-nous, à bientôt.
Bonjour Daniel, les indignés de la défense sont toujours là, 17e jour. Grosse rumeur ce soir, car normalement les flics s'apprêtent à nous virer, nous raser, nous nettoyer. Car dans 2 jours ou 3, il y aura Sarkozy qui va passer pour inaugurer le marché de Noël de la Défense. Et donc, ça ferait mauvais genre d'avoir des indignés juste à côté. Faut témoigner ça, quoi. Allez, salut.
Salut à tous. Alors que les ventes du livre de Stéphane Hessel s'emballaient, j'ai tout de suite pensé que ce n'était qu'une critique molle du système par quelqu'un qui en a toujours vécu. Mais je me suis tu et j'ai observé. Pendant que ce mouvement se constituait et que toi, Daniel, par optimisme certainement et même un peu de naïveté, je te reconnais bien là. Tu nous envoyais des nouvelles du front en nous racontant la beauté d'une organisation spontanée et apolitique, avec donc surtout la volonté de ne pas s'afficher et de ne rien changer au système. J'ai encore une fois pensé qu'il était regrettable de ne pas avoir la volonté de récupérer cette force en mouvement pour renverser le rapport de force. Mais je me suis tu et j'ai observé. Et aujourd'hui que la droite ultra-libérale est de retour au pouvoir en Espagne, et que nous voyons les médias internationaux et français en particulier pointer l'échec de ce mouvement de par le fait qu'il n'a rien su apporter au débat public lors d'un suffrage universel, je suis obligé de constater l'inutilité et même la dangerosité du courant Les Indignés. Car comme le faisait remarquer un intervenant dans ton émission, l'indignation n'est pas un courant politique. Pour ma part, je ne saurais conseiller à chacun d'entre nous que la radicalité. Car comme tu sais si bien nous le rappeler, Daniel, les penseurs de l'idéologie d'en face, eux, ne sont prêts à aucune concession. Bon courage à tous. François, Loire-Atlantique.
Salut Daniel, salut à tous. C'est Jacques de Nice. Voilà, il y a des émissions sur la Grèce en ce moment. Donc, je suis un abonné de Télérama et il y a une petite annonce des courriers des lecteurs qui est marrante. Donc, je vais en profiter tout le monde. Qui s'appelle Pirée Empire. Je voudrais profiter du jour des morts pour rendre hommage à mon arrière-grand-oncle, paysan de Corrèze, enrôlé à 20 ans dans le 3e régiment d'infanterie de marine, et qui est mort en 1854 du choléra à l'hôpital militaire du Pirée. Mais que faisait le 3e RI en 1854 au Pirée? Il assurait, avec les Anglais, le blocus du port à titre de représailles envers les Grecs qui refusaient de payer leurs dettes. Voilà, c'est une certaine Elisabeth qui a écrit ça, voilà. Allez, bonne journée à tous, salut!
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Athènes, d'où j'ai une vue imprenable sur la ville. Il fait très beau à Athènes. aujourd'hui. Je voulais remercier ceux qui sont très contents des résultats, des bons résultats médiamétrie de là-bas si j'y suis. Merci, c'est encourageant, même si bien sûr, il y a plein de suspicions autour de ces sondages. On les prend comme ça et on s'en réjouit sans illusion, bien sûr. Merci aussi aux fidèles des repères de là-bas si j'y suis, qui continuent d'être des noyaux d'auto-éducation citoyenne. La Grèce, donc, eh ben, c'est pas très gai. On essaye de prendre la mesure des effets de la crise sur la société, sur la santé publique, sur l'éducation, sur l'emploi, sur la vie en général. Et c'est pas très encourageant. C'est une maladie grave et c'est contagieux. Quand je dis maladie, c'est un peu abusif parce que tout cela a été, sinon voulu, au moins soutenu depuis des années par toute une pléiade de politiques, d'économistes, de penseurs de tous ordres qui ont défendu ben justement cet ordre-là. Par exemple, ici à Athènes et à travers toute la Grèce, une nouvelle taxe a été imposée à la population, une taxe foncière qui doit être payée avec la facture d'électricité, en même temps que la facture d'électricité. Et si vous ne pouvez pas payer, eh bien la sanction, c'est qu'on vous coupe l'électricité. Alors ça arrive à plein de foyers, plein de ménages, plein de maisons qui se trouvent sans électricité. Mais contre ces mesures, il y a des répliques. Les Grecs s'organisent, les Athéniens s'organisent. Le syndicat de l'équivalent de l'EDF, l'EDG, l'électricité de Grèce, eh bien, se mobilise et ce matin occupe le centre qui pratique les coupures d'électricité pour interdire les coupures d'électricité dans les maisons des gens d'ordinaire. Mais par contre, ces syndicalistes coupent l'électricité dans les grandes compagnies ou dans les ministères, certains ministères qui doivent des sommes astronomiques au service d'électricité. C'est une forme de lutte. Des luttes comme celle-là, il y en a partout dans la ville, partout à travers le pays. Le combat ne fait que commencer. C'est un affrontement extrêmement fort, extrêmement violent, qui probablement deviendra violent. On ne voit pas du tout comment il en irait autrement. C'est en tout cas ce qu'on entend un peu partout. Aujourd'hui, dans la masse, j'y suis, c'est l'émission mensuelle avec l'équipe du monde diplomatique, mais auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
La nausée, Jean-Pierre, victime de l'amiante. Inacceptable que 300 victimes de l'amiante, dont certains sont décédés de cette poudre blanche, hautement cancérigène, qui fait 10 morts chaque jour, 3000 morts par an, 100 000 morts à venir, doivent rembourser une partie de leur indemnisation perçue du FIVA, entre 5 000 et 15 000 euros, à cause d'un revirement de la jurisprudence à l'initiative du FIVA, la honte. L'ignominie entendue samedi sur la 2 par Claire Fabre, porte-parole du FIVA. Les 300 victimes doivent rembourser. À la question de la journaliste, même les morts, oui, les héritiers doivent rembourser. Il faut exécuter les décisions de justice. Mais les porteurs de valises déposées à Nicolas Sarkozy, les billets distribués par Éliane Bettencourt, les 45 millions d'euros du préjudice moral de Tapie, les empoisonneurs de l'amiante qui ne remboursent rien, n'ont pas de décision de justice, eux. Les huissiers ne frappent pas à leur porte. N'attendons pas des actes de désespoir des victimes de l'amiante pour agir et faire cesser ce scandale.
Salut aux AMG de La Réunion et aux autres, je vous rappelle le Café Repère qui se tiendra à la Cerise, Café Culturel 1 rue Eugène Daillot à Saint-Paul, île de La Réunion, sous l'espace Le Comte de Lille, à 100 mètres de la plage de sable noir de Saint-Paul. Ça c'est pour les auditeurs de la métropole. Ce Café Repère aura lieu le mercredi 23 novembre à 20h. Le film débat aura pour thème brûlant d'actualité les banques. Venez nombreux avec vos infos, vos réflexions et vos questions. On vous attend. À bientôt.
Bonjour aux AMG du Pays d'Aix. Le repère du Pays d'Aix se tiendra mardi 22 comme tous les quatrièmes mardis du mois, au restaurant Le Coton Rouge, à côté de la cité universitaire Arc de Méran, près du viaduc SNCF. Nous avons choisi de parler mardi de l'exil. Alors, venez prendre un verre avec nous. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec l'équipe du Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça. Flight number 2,
arriving from New York. Bon, ça y est, le Monde Diplomatique va changer le monde. Enfin, il se pose la question comment. Et là, il y a quand même des réponses, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, des interrogations. Et la première, c'est où est la gauche? C'est la question que se pose Serge Halimi, et puis il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. D'abord, définir la gauche. Laurent Bonelli se demande qu'est-ce que c'est être de gauche, comment la gauche ne l'est pas toujours, et c'est très compliqué. Et puis Franck Poupeau, lui, s'intéresse aux gens formidables. Il a lu un livre, Franck Poupeau, où on parle de gens formidables, et il nous parlera de ces gens formidables. Il y a beaucoup d'autres papiers sur la question de changer le monde dans ce diplôme du mois de novembre. On va commencer par Serge Halimi, qui se demande bien où est la gauche et si elle est quelque part, comment peut-elle agir, sachant que bien souvent, on met l'indicateur à gauche et ensuite on tourne à droite. C'est quand même bien ça qui se passe assez fréquemment, Serge Halimi.
Assez fréquemment, oui, effectivement, où est la gauche? Alors d'abord, pourquoi se pose-t-on la question en ce moment en Europe? À l'évidence, parce qu'on constate que la crise financière, la crise économique s'aggrave, et elle s'aggrave en raison de l'incurie des politiques mises en œuvre que personne ne semble en mesure de stopper, et que maintenant, à cette crise économique et financière, s'ajoute le risque de relancer les haines nationalistes lorsqu'on voit que les Grecs s'opposent aux Allemands, que les Italiens s'opposent aux Français, et que ce projet européen qui était censé pacifier des nations qui s'étaient livrées à des conflits déchaîne leur antagonisme. Alors je disais d'abord, la première chose à voir, c'est le contexte économique et financier qui devient, bon, il ne faut pas exagérer du terme, mais assez dramatique. Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie est en train de couler. Et certains de vos auditeurs ont peut-être vu les images de manifestants de gauche qui saluaient la défaite de Berlusconi et sa démission. On comprend leur joie, mais leur joie devait être tempérée par la compréhension du fait que c'est pas la gauche qui a fait tomber Berlusconi, ce sont les marchés financiers. La gauche n'a rien eu à voir là-dedans. Et les marchés financiers veulent quelque chose d'assez simple, c'est imposer à l'Italie un gouvernement de techniciens dogmatiques dont la seule mission sera de mettre en œuvre le diktat écrit par la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne avec le Fonds Monétaire International,
la Troïka,
oui, qui sera chargé de surveiller l'exécution de la peine. C'est ce à quoi on assiste en Italie. Et il faut constater que cette situation est le produit d'une suite de décisions économiques complètement stupides et irresponsables, qu'il y a un an et demi, le sauvetage de la Grèce n'aurait sans doute pas coûté grand-chose, mais les pays européens ont choisi de faire souffrir la Grèce afin qu'elle serve d'exemple aux autres. Et ce qui s'est produit pour la Grèce est en train de se produire pour l'Italie. Quand l'Italie a des difficultés financières, il faut qu'elle se tourne vers les marchés financiers, qui utilise le fait qu'elle a des difficultés financières pour relever les taux, ce qui rend la difficulté financière encore plus grande, ce qui accroît la défiance des marchés financiers et élève les taux que l'Italie doit acquitter pour régler sa dette, et ainsi de suite, etc. Tout ça parce qu'on ne veut pas que la Banque Centrale Européenne finance la dette des États. On veut bien que la Banque Centrale Européenne finance les extravagances des banques privées, mais lorsqu'il s'agit des États, eux doivent se débrouiller sur les marchés financiers et payer les taux extravagants que les marchés financiers réclament. Donc, prenons un exemple très simple. À l'heure actuelle, l'Italie doit payer un taux de près de 7%, alors que le Royaume-Uni, dont les comptes sont aussi mauvais que ceux de l'Italie, et qui a une situation économique encore plus dégradée que celle de l'Italie, mais qui, lui, dispose de sa banque centrale, la Banque d'Angleterre, et qui emprunte auprès de sa banque centrale, ne paie que des taux d'intérêt de 2%. Ce dogme imbécile provoque la contamination que ce refus de prêter devait empêcher. On disait, on ne prête pas pour que vous appreniez, que vous gériez vos comptes de manière plus sérieuse la prochaine fois. Résultat, la crise s'amplifie, la crise s'aggrave. Donc on a une gestion par Sarkozy et par Merkel de la crise qui a été sans doute l'une des plus calamiteuses de l'histoire économique moderne. Dans le New York Times, on pouvait lire ce titre il y a peu de temps, « La Banque centrale européenne va-t-elle aider les nations autant qu'elle aide les banques ?» Mais c'est pas une question qu'on retrouve uniquement dans le monde diplomatique. C'est dans le New York Times et même les analystes du Crédit Suisse, qui sont pas non plus des combattants anticapitalistes acharnés, estiment qu'il est absurde d'exiger que l'Italie paie des taux d'intérêt de 7% quand n'importe quelle banque ordinaire peut emprunter auprès de la BCE pour la moitié, voire pour le tiers. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier élément du décor des politiques économiques imbéciles et des politiques économiques qui aggravent la crise, qu'elles sont censées éliminer, supprimer ou en tout cas calmer. Maintenant, la deuxième étape, c'est que cette crise risque de relancer les hostilités, les antagonismes nationalistes. Parce que grâce à l'Europe, avec tous les guillemets d'usage, les Allemands sont en train de mépriser les Grecs et les Espagnols, les Français sont en train de mépriser les Italiens, et les Grecs en viennent à comparer l'Allemagne de Merkel à celle qui les a occupés il y a 70 ans. Les Italiens, eux, sont outrés par les coups de fil répétés de Nicolas Sarkozy, leur enjoignant d'accélérer la fréquence de la purge. Vous avez des peuples européens qui ont de plus en plus conscience que les décisions échappent à leur gouvernement et que ce sont des gouvernements étrangers, certes européens, mais étrangers, qui imposent des purges répétées et des purges de plus en plus sévères. Donc vous avez la stupidité financière avec cette politique de l'euro, la calamité politique avec le retour aux antagonismes entre pays européens, ce qui est quand même un beau succès pour l'Europe, hein. Et vous avez maintenant la mise en cause de la démocratie, qu'on observe en Italie ou en Grèce, où des gouvernements légitimes, issus de votes populaires, quoi qu'on pense de Berlusconi ou quoi qu'on pense de Papandréou, ont été renversés à la suite de pressions de gouvernements étrangers, voire d'instances supranationales, comme les marchés financiers ou la Banque centrale européenne, qui n'ont aucune légitimité démocratique. Alors pendant ce temps, j'en viens à la question, où est la gauche? Il y a ce contexte-là, où est la gauche? Et il est évident que quand on envisage que la prochaine élection présidentielle déjà opposera Nicolas Sarkozy à François Hollande, qui ont été d'accord sur le traité de Maastricht, sur le traité de Lisbonne, qui ne mettent pas en cause directement, fondamentalement, ces traités européens qui accordent un pouvoir extravagant à la Banque centrale européenne, qui a maintenant le pouvoir de mettre à genoux des États et des peuples, la question de la réalité de l'affrontement politique est réellement posée. On a donc ce contexte pour l'Europe. Et lorsqu'on veut faire la comparaison avec la situation des années 30, qu'on fait parfois, il faut bien constater que l'un des éléments principaux de différence entre les deux situations, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'alternative politique, d'autres choix économiques et sociaux proposés dans le monde à l'heure actuelle, peut-être à l'exception de l'Amérique latine, dont Renaud Lambert nous parlera. Mais à l'heure actuelle, vous avez cette situation en Europe. Et lorsqu'on parle des grands débats qui opposent l'Europe à la Chine ou certains pays européens aux islamistes, il faut bien voir que la Chine, comme les partis islamistes, défendent le modèle libéral capitaliste, assaisonné ou non, selon les cas, de charité religieuse. Et on a eu récemment quand même cette déclaration stupéfiante d'un patron du fonds souverain chinois qui vient de prendre une participation dans GDF Suez, déclaration que vient de relever Martine Bullard dans son blog du Diplo, qui expliquait à Al Jazeera, je cite, « Les troubles qui se sont produits dans les pays européens résultent uniquement de problèmes accumulés par une société en fin de course vivant d'acquis sociaux. Je pense que les lois sociales sont obsolètes, elles conduisent à la paresse, à l'indolence, plutôt qu'à travailler dur, le système d'incitation est complètement détraqué. Pourquoi les habitants de certains pays de la zone euro devraient travailler jusqu'à 65 ans et plus, alors que dans d'autres pays, ils prennent aisément leur retraite à 55 ans et se prélassent sur la plage ?» Ça, c'est un dirigeant chinois qui tient ses propos. Donc au moment où vous avez en Europe des gouvernements sociodémocrates qui mènent les politiques qu'on vient de décrire. Vous avez un dirigeant chinois qui, très loin, reproche en quelque sorte à ces gouvernements européens d'être encore trop généreux, d'être encore trop sociodémocrates, et qui leur propose d'adopter le modèle dur à l'américaine. On a l'impression d'entendre un dirigeant du Parti républicain américain. On en est là. On est dans une situation où il y a une crise gigantesque du capitalisme, mais il n'y a pas de mise en cause du capitalisme, parce qu'à la différence de la situation qu'on a connue dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, sur l'ensemble de la planète, à l'exception peut-être de l'Amérique latine, ce modèle n'est pas remis en cause. Et dans ces conditions, la crise ne peut pas trouver sa solution.
Serge Halimi, alors supposons aux prochaines élections, on a un parti nouveau qui existerait à la gauche. Et supposons qu'ils arrivent en tête. Quelle serait leur possibilité de gouverner et d'exercer le pouvoir?
Bon, il y a des tas de choses qui sont évoquées dans l'article et qui reviennent notamment sur cette politique européenne prévue par les traités, sur l'indépendance de la Banque centrale, sur la priorité accordée à la lutte contre l'inflation, sur le fait qu'au Parlement européen, vous avez toujours une alliance entre la droite et les socialistes pour se partager les postes. Donc il y a un certain nombre de verrous institutionnels et politiques qui sont en place. Sans compter le fait que le système électoral français favorise, à travers le système du deuxième tour, un affrontement entre les deux partis arrivés en tête, et que 18 mois avant que commence l'élection, les gens se posent la question de savoir quel est le vote utile. Au lieu de se demander quelle est la politique qu'ils souhaitent, ils se demandent quel est le vote utile, quel est le candidat qui sera le plus en mesure de battre Nicolas Sarkozy, sans se demander dans quelle mesure les politiques de ce candidat inverseront la politique de Nicolas Sarkozy, qu'il condamne à juste titre. Donc vous avez un certain nombre de blocages qui sont à la fois institutionnels et politiques, et qui tiennent aussi à la manière dont nous agissons en tant que citoyens quand nous votons, à la manière dont nous nous laissons prendre par ce petit jeu politique qui nous éloigne des vrais enjeux, pour estimer que la vraie priorité, c'est de se débarrasser soit d'Aznar en Espagne, soit de Berlusconi en Italie, soit de Sarkozy en France, sans voir dans quelle mesure ce sont les politiques d'Aznar, de Berlusconi et de Sarkozy qui posent un problème, et dans quelle mesure les solutions qui sont proposées par un certain nombre de partis de gauche ne constituent pas la réponse à ce problème.
Mais on entend, on le dit, écoutez, votez utile pour les prochaines élections, votez Hollande si vous êtes de gauche. Ça, c'est dans les urnes, et le lendemain, c'est dans la rue. Souvenez-vous de 1936, où la population a débordé, dépassé et poussé le gouvernement nouvellement élu à faire les réformes que l'on sait, et réformes importantes toujours pour nous aujourd'hui.
Alors là, vous avez raison, c'est l'un des précédents historiques que je cite, et qui me paraît être porteur d'espoir, mais il faut admettre que des précédents historiques de ce type, il n'y en a pas des centaines. Mais en 1936, vous avez un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir sur la base d'un programme très modéré. Le programme, c'est uniquement barrer la route au fascisme. Il n'y a pas vraiment de réformes sociales qui sont prévues dans le programme du Rassemblement populaire qui l'emporte en avril-mai 1936. Seulement, quand ce gouvernement de gauche arrive au pouvoir, vous avez un puissant mouvement social qui se déchaîne spontanément dans les usines, où vous avez des ouvriers qui se disent « maintenant que la gauche est au pouvoir, en tout cas, on peut faire grève, elle n'enverra pas la police contre nous ». On occupe les usines, on prend les usines en quelque sorte en gage pour s'assurer que cette victoire de la gauche se traduira par une amélioration de nos conditions sociales. Et la gauche va faire voter la semaine de 40 heures et les congés payés, qui sont deux dispositions qui ne figurent pas dans son programme, parce que les usines sont occupées, et parce que les patrons terrorisés vont la voir et la supplier de mettre un terme à ses occupations d'usines en payant le prix nécessaire. Et les patrons qui n'acceptent pas de payer quoi que ce soit un centime en temps ordinaire, qui demandent toujours à obtenir davantage de concessions du salariat, là vont être les premiers à dire « on est prêt à payer le prix que vous voulez parce qu'il faut que les usines nous soient restituées ».
Aujourd'hui, est-ce que on évoque la 36 comparaison des paraisons, parce que il y avait une classe populaire, une classe ouvrière extrêmement forte qui jouait un rôle important dans l'économie, dans la vie politique. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui un tel monde social?
À l'heure actuelle, non. Mais enfin, ces mouvements-là sont absolument imprévisibles avant qu'ils ne surviennent. Vous auriez été en 1935 Vous avez un prolétariat qui est certes nombreux, mais qui est complètement désorganisé, qui est très peu syndicalisé, et personne ne donne cher de ses chances de se redresser. Vous auriez été en Tunisie il y a un an, vous n'auriez pas imaginé les révoltes arabes et la contagion, entre guillemets, de ces révoltes à l'ensemble de la région. Donc ces mouvements-là ont pour principale caractéristique de ne pas s'annoncer longtemps à l'avance. Ce que nous pouvons dire, en tout cas, ce qui, à mon sens, n'est pas très risqué d'avancer, c'est que si la gauche actuelle arrive au pouvoir l'année prochaine, remporte les élections telle qu'elle est, avec ses conceptions idéologiques qui n'ont pas rompu avec le libéralisme, et on parle de 1936, il y a une autre date qu'il faut avoir à l'esprit, c'est 1993. 1993, c'est la défaite électorale la plus cinglante de la gauche. L'année précédente, la gauche a fait voter le traité de Maastricht. Avec Pierre Bérégovoy à Matignon, elle mène une politique d'austérité féroce, qui naturellement satisfait les marchés financiers, mais qui ne satisfait pas la base populaire française. Résultat, le Parti socialiste passe de 275 députés à 57 députés. Il n'y a pas eu de désastre électoral plus grand en un siècle. Donc la possibilité serait que la gauche remporte les élections l'année prochaine, qu'elle mène la même politique, qu'elle cherche à conserver la note triple A, que naturellement elle perdra dès qu'elle mènera une politique de gauche, et que, cherchant à conserver la note triple A, elle enchaîne les plans d'austérité sur les plans d'austérité, comme Nicolas Sarkozy et François Fillon le font, puisqu'on en est déjà au deuxième et qu'on annonce que le troisième se prépare. Et dans ces conditions, ça sera un échec électoral, quelques mois ou quelques années plus tard, avec comme perspective politique, on ne sait pas quoi.
Il y a quelque temps, dit-on, rappelle-toi, chère fillette, Saint-Just agaçait ton menton et tu lui décollais la tête. Tu n'étais pas encore de ceux qui pour s'asseoir veulent deux chaises et puis qui s'assoient au milieu. Merveilleuse gauche française. Bien sûr, je t'aime. On continue comme au brave temps des cerises, mais ne me laisse pas tout nu trembler tout seul dans ma chemise. Je ne politicarde pas, simplement je dis ma détresse de voir se flétrir les appâts de ma plus ancienne maîtresse.
Bon, on continue avec le monde diplomatique du mois de novembre. Serge Halimi nous laisse une impression un petit peu mitigée, on va dire. Mais heureusement, voilà Franck Poupeau qui, en page 20 du monde diplomatique, nous remplit d'espoir. Le papier s'appelle « Des gens formidables ». Et Franck Poupeau s'est intéressé à un ouvrage qui s'appelle « Les sentiers de l'utopie » et qui nous emmène à travers l'Europe. Découvrir des gens qui vivent autrement, des solutions alternatives, d'autres façons de vivre, d'imaginer la vie, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des rapports au niveau des mœurs, etc. Et alors, vous avez remarqué que très souvent, les auteurs du livre disent « Nous avons rencontré des gens formidables ». Est-ce que vous avez rencontré, vous, un livre formidable ?
Les auteurs disent pas ça exactement, hein. C'est moi qui suis un petit peu vache avec le livre, que par ailleurs je recommande, hein. C'est un livre qui est plutôt agréable à lire, qui présente pas mal d'expériences alternatives, qui sont plutôt sympathiques au bout du compte, même si voilà, j'essaie de faire un certain nombre de réserves de fond au-delà d'un aspect un petit peu polémique. Je m'intéresse plus ici à la gauche anticapitaliste, à l'effort de trouver des alternatives. Et si j'ai fait le papier sur ce livre, c'est parce qu'il illustre de façon un peu extrême une logique très tentante en ce moment dans les sphères de la gauche radicale ou de l'extrême gauche, et qui explique en partie pourquoi elle ne peut pas faire contrepoids par rapport à la gauche institutionnelle, hein, ou à la deuxième gauche, qui est la tendance à un repli hors de la politique au sens où on l'entend. Et en fait, ça illustre un double problème, à mon avis. Le premier, c'est la contradiction qu'éprouve cette gauche-là à se penser, à se positionner par rapport à l'État. Donc la solution apparemment toute faite, c'est de s'orienter vers, pas d'État, et donc des communautés. On pense l'alternative en dehors de l'État, puisque l'État, par définition, ne peut rien ou est mauvais. Ça dépend des différents positionnements. Voilà. Or, il me semble que la façon dont le livre « Les sentiers d'utopie » présente ces utopies communautaires, justement, ne permet pas ce passage. Et c'est le gros reproche que je leur fais, c'est le seul au fond. C'est-à-dire la coupure entre ces expériences-là et les gens formidables qu'on y trouve, et le côté un petit peu exaspérant vers certains modes de vie ordinaires que l'on rejette a priori, surtout quand ces modes de vie ordinaires sont menés par des gens qui n'ont pas forcément le choix. À plein de niveaux, je vous dis juste un exemple que j'ai relevé. Dans le village punk de la Vieille Valette, hein, c'est dans les Cévennes, je suis sûr. Ici, pas de syndrome IKEA.
IKEA, c'est-à-dire les meubles IKEA.
Voilà, pas de syndrome IKEA. Les maîtres mots sont lettres, récup et recyclage pour produire des habitations d'une individualité rare. Beaucoup d'entre elles sont décorées de mosaïques splendides. Voilà. Tant pis pour tous ceux qui vont chez IKEA, qui sont pas bricoleurs, qui n'ont pas le temps d'aller dans les brocantes, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter autre chose non plus. Donc c'est un côté un peu exaspérant, très très distinctif, très élitiste, en plus d'être très individualiste.
Ça, c'est une tradition libertaire. On célèbre Brassens qui disait « au-delà de quatre, on est une bande de cons ». C'est-à-dire qu'il y a ce côté, voilà, nous on se mêle pas aux masses, à tous ces gens-là, tous ces cocus.
Voilà, ça c'est la chose essentielle. Du coup, le deuxième reproche, qui en est un peu la conséquence, c'est que ces utopies communautaires, elles sont tout à fait compatibles avec le système libéral, au bout du compte. Elles sont tout à fait compatibles, c'est un système dualiste. La différence là-dessus, c'est que quand on... collectif, ça ne veut pas dire politique. Voilà. Et c'est quand même une différence essentielle qui est un petit peu oubliée dans ce livre, d'où le chose un peu ironique. Les gens formidables, c'est cette exaltation un peu des gens un peu exceptionnels, qui n'ont rien à voir avec les gens ordinaires, etc. Et je pense que ça, c'est un vrai rebutoir pour un travail de mobilisation. Alors comme c'est un peu à la mode en ce moment de citer Orwell, j'ai repris un bouquin d'Orwell qui s'appelle « Kedwigan ». Et je vous lis, c'est assez savoureux. Et, hein, il se demande pourquoi le socialisme n'arrive pas à s'instaurer et il perd du terrain, là précisément, où il devrait en gagner. Hein, la démonstration de Serge était éclatante, voilà. Il y a quand même un certain nombre d'évidences qui font qu'on devrait dire « stop ». Il n'y a que 100 personnes, il y a 150 indignés à la Défense, simplement. Voilà. Il n'y a pas de gens qui descendent dans la rue là-dessus, voilà, qui sortent de leur lieu de travail. Alors Orwell poursuit, ça signifie que le socialisme tel qu'on nous le présente aujourd'hui comporte en lui quelque chose d'invinciblement déplaisant, quelque chose qui détourne de lui ce qui devrait s'unir pour assurer son avènement. Et donc, afin d'expliquer ce rejet du socialisme, il instruit un procès destiné à ce type d'individu qui se sent en sympathie avec les buts fondamentaux du socialisme, qui est assez intelligent pour voir que le socialisme peut marcher, mais qui, en pratique, prend la fuite dès que le mot de socialisme vient à être prononcé. Interrogez cette personne, une personne de cette sorte, et vous obtiendrez très souvent la réponse en forme de pirouette suivante. Je n'ai rien contre le socialisme, mais je suis contre les socialistes. Voilà. En gros, la pire publicité que connaît ce socialisme, c'est celle que lui font ses adeptes. Voilà. Et c'est vrai que cette image un peu émancipée, culturellement libre, etc., a quand même des effets pervers, puisqu'elle tend à instaurer des distinctions sociales et politiques très très fortes entre ceux qui se laissent avoir par le système et ceux qui sont tellement malins qu'ils arrivent à y échapper dans leur communauté. On pourrait citer le plateau des 1000 vaches, etc. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas précieux, après tout, qu'il y ait toutes ces alternatives, qu'on puisse disposer comme ça, comme autant de laboratoires qui nous disent, ben voilà, on peut vivre autrement. Nous, on essaye ça. Ça marche ou ça marche pas. Ça réussit ou ça réussit pas. Ça, c'est une première question que je vous pose. Et puis, dans ce livre, il est question d'une petite ville en Espagne, en Andalousie, qui s'appelle Marina Leda. Et qui est une vraie réussite. Et qui n'a, j'y suis allé, j'ai fait des reportages avec Antoine Chao, on a fait des reportages là-bas, qui n'a rien du tout absolument rien d'élitaire. Et qui représente là bel et bien une expérience qui est tout à fait généralisable. On souhaite qu'elle soit généralisable puisqu'elle repose sur l'appropriation des terres, que ce soit des terres agricoles, et ça fonctionne, que des terres municipales, et ça fonctionne aussi. Donc il y a une appropriation des terres par la collectivité. Donc là, on est dans une expérience tout à fait enviable. Alors là aussi, avec un personnage charismatique, etc., dans cette commune.
Oui, alors il y a toujours quelqu'un de formidable, pour le coup, qui guide tout le monde. Alors c'est un peu délicat, justement, de retomber dans des formes de domination charismatique. Est-ce que c'est vraiment des expériences aussi alternatives que ça, du point de vue des rapports de pouvoir? Par ailleurs, est-ce que les rapports de pouvoir peuvent être éliminés? L'impression qu'on a souvent en lisant ces expériences-là, c'est qu'il y a une sorte de croyance en la magie du pouvoir qui s'efface dès qu'on est dans les collectifs. Or, il n'en est rien. Voilà, donc il y a un premier impensé là-dessus. Et le reproche essentiel, tant mieux si ça fonctionne. Voilà, le problème, est-ce que c'est généralisable? Quelle est la vertu de ces expériences si elles sont destinées justement à rester des expériences? Alors on peut invoquer des fédérations de villes, des liens par Internet entre les communautés les unes et les autres. Ce qu'on veut, c'est que ça reste pas des communautés, justement, que ça se pose en modèle politique. Or, ça reste, à mon avis, beaucoup trop des formes d'expérimentation culturelle, des styles de vie. Alors, il peut y avoir des expériences qui vont plus loin que d'autres, partage des terres, etc. Effectivement, ça, c'est très bien. Voilà. Mais j'ai du mal à voir comment leurs conditions de fonctionnement n'est pas la logique d'exception dans laquelle elles s'inscrivent. Voilà, c'est un peu ça qui me dérange dans la pertinence de leur façon de se poser en modèle. Alors c'est mieux que rien, c'est mieux que ça n'y était pas, effectivement, on pourra toujours dire ça, mais le travail de mobilisation, on ne le voit pas.
Laisse aller le hippie qui dort en toi, le hippie est là. Laisse aller le hippie t'invite, bienvenue en mai 2068. Restons cool, ne nous mettons pas la pression. J'ai pris des amphètes et puis des champignons. J'ai mangé un cake, y'avait un truc dedans. Maintenant je vois des fleurs et des pattes d'éléphant. Je me sens comme le roi des hippies. Et je sens pousser mes cheveux. Dans l'Aveyron, j'ai planté un tipi. À Istanbul, j'ai vendu mon combi. Bouge ton corps comme un hindou. Tu te demandes cette musique, elle vient d'où? Sors ton djembe et ton didgeridoo. On va te le faire prendre comme un cul de sable. Danse dans les clubs, dans les boîtes, dans la gadou. Danse comme un baba, danse comme un Katmandou. C'est comme ça qu'on fait, ouais, this is how we do. Maintenant on veut voir tous les hippies debout. Hippie, hippie, hippie. Je vois des hippies partout, des hippies de haut. Des hippies du sud et puis des hippies du nord. Rien des hippies carnivores. Réveillons-toi le hippie qui dort. Réfléchis l'amour, pas la guerre. Pour instiguer une guerre, celle-ci est pour tous les hippies de la terre. Venez, je vous invite dans mes 2060 pieds à traverser et gratuit. Est-ce que vous êtes hippies?
Alors, on continue avec le diplo de ce mois de novembre. Et là, on part pour Kaboul avec Louis Humbert, qui nous raconte une escroquerie assez monumentale.
C'est l'histoire d'une escroquerie, c'est l'histoire d'un casse de banque qui a très bien marché. Et au fond, c'est l'histoire d'un entrepreneur, un petit empereur, un petit capitaliste en zone chaotique d'une économie qui est en train de se construire, de se reconstruire, dit-on. Il a réussi à faire s'évaporer comme ça dans la nature, 900 millions de dollars, 935 au dernier compte, et puis bon, c'est pas encore complètement fixé. Si on veut une petite comparaison, parce que l'Afghanistan c'est pas la France, ça a l'air vite comme ça un chiffre pareil, le PIB réel de l'Afghanistan cette année, selon le FMI, c'est 7 milliards de dollars. Donc 900 millions, ça fait beaucoup. Lehman Brothers a pas fait ça. Donc voilà, comment un type comme ça, un type qui part de rien, qui part du nord de l'Afghanistan, dans une famille qui a pas de soutien tribal, qui a zéro monnaie et pas vraiment d'éducation, arrive à faire ça? Et qu'est-ce que ça dit, cette histoire de l'entrepreneur qui fait son casse, sur l'Afghanistan aujourd'hui, sur une économie qu'on essaye de reconstruire, sur les réseaux clientélistes qui se sont mis en place depuis la chute des talibans, depuis 2001, avec notre soutien, qui est extrêmement dépendante de l'argent extérieur, qui est entièrement dépendante en fait de l'argent américain essentiellement, où il y a quand même des entreprises qui se créent. Lui, c'était un banquier, ce type. Et la banque a été considérée jusque vers 2006-2007 comme une des industries qui marchait, un modèle. Donc bref, c'est un modèle, c'est des zones où on a l'impression qu'il y a des investisseurs qui marchent. Et en fait, on se rend compte avec la Kabul Bank qu'il y a énormément de gens qui faisaient du business, qui sont considérés comme des grands entrepreneurs en Afghanistan, qui en fait ne faisaient pas de gains, zéro. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était aller piquer un peu plus de sous dans la caisse de la dite banque pour refinancer leurs trucs qui marchaient pas. Je pense essentiellement à Mahmoud Karzai, qui est le frère d'Hamid Karzai, président de l'Afghanistan, et le frère est un entrepreneur basé à Kandahar. Alors comment ils ont fait ça?
Voilà, c'est ça qui nous intéresse.
L'idée, c'est qu'ils ont drainé l'argent de tout ce qui coule en Afghanistan. Ils ont fait comment? Ils ont créé une banque. une banque en Afghanistan, ça paraît comme ça logique, mais il n'y en avait plus en 2001. Il n'y en avait plus sous les talibans. Il y en avait deux qui étaient des banques d'État, qui étaient relativement anémiques et qui servaient à rien. Le premier guichet bancaire pour aller retirer du liquide, vous voyez, comme dans une banque, il était au Pakistan, à quelques centaines de kilomètres de Kaboul. Donc alors, quand les Américains sont arrivés en 2001, ils ont essayé de reconstruire l'économie, reconstruire un système financier, et ils ont encouragé la création de banques. La première qui s'est faite, c'est celle-là, qui s'appelle la Kabul Bank, qui a été créée en 2004 et qui a drainé les dépôts des Afghans. À la fin, au moment où ils ont explosé, à l'été 2010, ils avaient 1,3 million de comptes, qui sont des petits dépôts, vous voyez, c'est des petites gens. L'autre moyen d'accumuler l'argent dans les caisses, ça a été d'obtenir des contrats de distribution des salaires des fonctionnaires afghans, de signer ministère après ministère, avec le ministère de la Culture, avec l'armée et la police essentiellement aussi, parce que c'est un secteur important en Afghanistan, la distribution des salaires. Pour ça, ils ont ouvert extrêmement vite, en quelques années, des antennes un peu partout en Afghanistan, y compris dans les zones où où vous et moi, on va pas. Et où ils avaient un guichet qui était là pour recevoir les hélicoptères et les convois armés qui emmènent le liquide, parce que c'est une banque en Afghanistan, c'est une petite armée, pour distribuer ça aux fonctionnaires. Bon, évidemment, comment ils ont eu ces contrats-là, ces 10 contrats de distribution de salaire, c'est par corruption, complètement. Ils ont financé en partie la campagne de la réélection d'Aminat Karzai en 2009, et ils ont également accordé des prêts. Et c'est là que l'argent disparaît. Parce que quand vous faites venir comme ça tout cet argent, le jeu, c'est que vous le faites ressortir immédiatement. Il y a un truc qu'on a découvert assez récemment, c'est le FMI qui me le dit, que l'argent n'a jamais vraiment dormi dans les caisses de la Kabul Bank. On l'a appris récemment. Si on appelle ça, c'est un truc qu'on connaît, on appelle ça une chaîne de Ponzi. Le jeu, c'est qu'on met une caisse comme ça d'argent, on fait venir plein de gens, mettez un peu plus d'argent, on va mettre l'argent en commun, on va exploiter ça, ça va donner des revenus, et puis je vais vous en refiler, la personne qui organise ça.
Vous êtes en train de nous raconter l'histoire d'un Madoff afghan.
Un Madoff afghan. Ouais. Mais un peu plus que ça, parce que Madoff s'est limité à la finance et lui, il avait des rêves d'empire. C'est un petit gars qui partait de rien, qui voulait faire plus que de la finance, qui a monté, qui a racheté avec cet argent, il a racheté une compagnie d'aviation, il a racheté une télévision, il a investi dans l'immobilier à Dubaï. Bref, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé à l'été 2010, parce que à cette époque-là, on le savait, le marché immobilier de Dubaï, qui avait été un boom immobilier fabuleux...
Peu fléchi.
Légèrement.
Alors le bilan maintenant, on en est où? Elle est fermée, cette banque, j'espère?
Ah bon? Non, elle est toujours ouverte, elle a été séparée en deux parties, plus ou moins. Il y en a une qui est censée être valide, il y a l'autre qui a récupéré tous les prêts pourris. Il devait y avoir des procès, le patron a été mis en taule, son vice-patron aussi.
En Afghanistan?
En Afghanistan, ouais, il était revenu dans le pays. Il a passé un an comme ça à faire des allers-retours, il se pensait vraiment au-dessus des lois, cet homme-là. Et il avait raison, il l'était. Puis il a fini par passer un peu de temps en taule, je vous rassure, il a passé un peu plus de 2 mois, mais depuis il est dehors. On n'a pas eu de nouvelles de lui, malheureusement. C'est quelqu'un sur qui je travaille depuis plus d'un an maintenant et j'ai jamais pu le rencontrer. Alors j'ai parlé à ses copains, j'ai parlé à ses associés, j'ai parlé à ses ennemis. Mais aujourd'hui, ça en est. Il y a toujours 900 millions de dollars qui sont dans la nature. La Banque Centrale Afghane a remboursé. Le FMI a refusé de rembourser la Banque Centrale Afghane. Il y a eu une espèce de blocage pendant 18 mois qui a empêché une partie des donneurs étrangers de l'Afghanistan d'envoyer l'argent. Ce qui fait que le budget afghan commençait à sérieusement tomber à court, quoi. Il y avait des mouches qui volaient dans les caisses de plus en plus et ils coupaient certains budgets. Ça s'est débloqué à la mi-novembre, parce qu'il y a une grande conférence à Bonn, en Allemagne, le 5 décembre, dans laquelle tous les donneurs étrangers de l'Afghanistan vont se réunir et essayer de redéfinir ce que ça va être jusqu'au retrait des troupes étrangères. Donc pas de prison, pas vraiment de procès. Les grands associés politiques de notre fondateur de banque ont été plus ou moins exonérés, c'est pas officiel, mais ils l'ont été. Sous réserve qu'ils remboursent au moins une partie des sommes, ils ont remboursé les prêts qui ont été publiés, en tout cas découverts et publiés, et on se demande encore combien va revenir. Il y a 75 millions de dollars qui ont été récupérés. Les Afghans parlent de récupérer quelque chose comme 350 millions de dollars de prêts, mais c'est hypothétique, il y a un point d'interrogation là-dessus.
کار دنیا گذران خوش پیر شده حیار جوان من نغم سرای دلی عاشق پسران دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش پیر شده
یار جوان من نغم سرای دلی عاشق بسرا.
Revanche personnelle contre le président sortant Alan García qui ne pouvait se représenter après deux mandats. Et victoire de taille aussi pour la gauche en Amérique latine qui ajoute une nouvelle corde à son arc. Ollanta Humala, ancien officier marxiste de 48 ans, est le grand vainqueur de l'élection présidentielle de dimanche au Pérou.
Euronews, 6 juin 2011.
La campagne électorale est finie et ce président sera celui de tous les Péruviens. J'assume la responsabilité qui m'incombe de consolider notre croissance économique. Cette croissance économique sera le grand moteur de l'impulsion sociale à laquelle aspirent les Péruviens et les Péruviennes.
On va finir avec le diplôme de ce mois de novembre avec Renaud Lambert qui va nous parler de l'Amérique latine. Ça revient au thème abordé par Serge Halimi aujourd'hui, par Franck Poupeau et par ce dossier dans le diplôme qui se propose de changer le monde, enfin de s'interroger sur la façon dont on pourrait changer le monde. Et il y a un monde, ou au moins une partie du monde, qui a changé ces dernières années, c'est bien l'Amérique latine. On a vu une vague rose, tantôt rouge, passer sur ce pays. Alors on a des images encourageantes, enfin pour ceux qui trouvent ça encourageant, dont je fais partie. Mais où en sommes-nous, Renaud ? C'est un vaste panorama, là. Hein. C'est quand même un continent entier.
On va essayer de résumer, peut-être pas rentrer dans le détail de chacun des pays, mais effectivement, ce qui nous a conduit dans le cadre de ce dossier « Peut-on changer le monde ? Où est la gauche ?» à nous intéresser à l'Amérique latine, c'est que entre les renoncements du social-libéralisme du Parti socialiste français qu'a évoqué Serge Halimi et entre le retrait total du champ politique et des antagonismes qu'il représente qu'a évoqué Franck Poupeau, eh bien il y a des expériences d'organisations politiques qui sont employées à conquérir le pouvoir d'État pour tenter, à partir de là, de transformer la société. L'Amérique latine, on le sait, avait constitué une espèce de laboratoire du néolibéralisme dans les années 70, 80, 90. Et depuis une dizaine d'années, regarder l'Amérique latine, c'est regarder un petit peu des expériences qui tendent à essayer de montrer que, finalement, peut-être qu'il y a des alternatives. Alors bon, ça a déjà été évoqué à votre micro. Brièvement, on peut rappeler que depuis la fin des années 90, depuis 98 en fait, en Amérique latine, toute une série de gouvernements progressistes, de gauche, parfois très à gauche, ont été élus en Amérique latine. 98, c'est l'élection d'Hugo Chavez au Venezuela. Il y a eu en 2002 l'élection de Lula au Brésil. Plus tard, il y aura Kirchner en Argentine, Correa en Équateur, Morales en Bolivie.
Et le Pérou récemment.
Le Pérou de Ollanta Humala en juin 2011, qui présente d'ailleurs la contradiction que cherche à évoquer ce papier, puisque Ollanta Humala au Pérou promet lors de sa campagne de changer le modèle péruvien de sorte qu'il n'y ait plus une élite qui bénéficie de l'extrême richesse du Pérou et il promet dans le même temps de ne rien changer au modèle économique. Donc qu'est-il possible de faire dans cette tension ? Et donc le papier de Robinson nous a semblé intéressant parce qu'il commence par les difficultés. Et il y en a des difficultés. Des protestations sociales, il y en a eu récemment en Bolivie, des populations indigènes qui protestent contre des avancées trop lentes, que parfois elles estiment comme être des trahisons de la part du gouvernement, des protestations de mouvements ouvriers au Venezuela, bref, de protestations émanant de ce qui constitue la base sociale, la base qui avait participé à l'élection de ces gouvernements. On observe aussi une grande frustration, une grande colère des oligarchies, de la droite, du pouvoir économique. On le sait, la droite a pris le pouvoir de façon démocratique en janvier 2010 au Chili. Elle l'a pris de façon beaucoup moins démocratique par un coup d'État en juin 2009 au Honduras. Il y a eu une tentative de coup d'État contre Correa en Équateur. C'est donc qu'il se passe quelque chose qui ne satisfait pas totalement les dominants. Et puis, il faut aussi se rendre compte que depuis une dizaine d'années, la gauche latino-américaine, dans son ensemble, a quand même connu quelques réussites. Le premier dossier, c'est la baisse de la pauvreté. En Bolivie, entre 1990 et 1999, au plein cœur de la période néolibérale, l'extrême pauvreté augmente de 58%. Entre 1999 et 2007, elle baisse de 14%. Au Venezuela, même période 90-99, augmentation de plus de 50% de l'extrême pauvreté. Depuis l'arrivée d'Hugo Chavez, elle baisse d'autant, 50%. C'est quand même des chiffres qui sont assez importants. Le dossier des retraites, qui est cher aux Français, qui sont descendus dans la rue, protestés contre l'allongement de la période de cotisation, eh bien, au moment où en France les gens étaient dans la rue, en Bolivie, le gouvernement procédait à une réforme exactement opposée, l'âge de la retraite passait de 65 à 58 ans.
Il présente sa réforme comme un cadeau de Noël aux Boliviens après 2 ans de négociations avec les syndicats.
ITélé, 27 novembre 2010.
Evo Morales compte faire travailler moins longtemps ses compatriotes. L'âge légal de la retraite devrait passer de 65 à 58 ans. La pénibilité devrait être largement prise en compte puisqu'un mineur pourrait partir dès 51 ans au lieu de 55. La réforme prévoit également de nationaliser la gestion des retraites et de fermer les caisses privées. Pour son financement, l'apport patronal sera majoré de 3% et celui des employés de 0,5%. Au pouvoir depuis 4 ans, Evo Morales, issu de la classe populaire, poursuit une politique de capitalisme d'État qui redistribue les richesses du pays vers les classes défavorisées.
Prenons le dossier du partage de la valeur ajoutée. Le partage de la richesse, c'est quelque chose qui a été traité dans les colonnes du journal, c'est quelque chose que François Ruffin a évoqué dans l'émission Là-bas si j'y suis. Comment est-ce que les deux grandes forces antagonistes de la société se partagent la richesse produite? Comment est-ce que c'est réparti entre le capital et le travail? Eh bien, on observe que, à peu près partout dans le monde, l'évolution de cette répartition est en faveur du capital à travers le monde. Eh bien, au Brésil, entre 1999 et 2009, la part allouée au salaire augmente de 3,6%. Donc, il y a des évolutions assez importantes. Est-ce que ça veut dire que la révolution a lieu et que le socialisme est advenu en Amérique latine? Non. D'ailleurs, certains s'en félicitent. L'intellectuel néolibéral bolivien Roberto Lacerna s'interrogeait récemment, je le cite, « Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années ?» Les dernières années, pour lui, c'est la période Morales. Il répondait, je le cite, « Beaucoup, si l'on observe le processus en termes de discours, de symboles, dans une perspective à court terme, mais très peu, du point de vue structurel ou des tendances économiques et sociales, dans une perspective à long terme. » Et il est vrai que, même s'il a été chahuté, le système, le modèle de l'économie de marché demeure en place en Amérique latine. Le régime de propriété est très rarement menacé. L'un des gros reproches que l'on fait au gouvernement latino-américain à l'heure actuelle, c'est celui du non-respect de l'environnement, de l'écologie. En effet, l'une des mesures auxquelles ils ont procédé, c'est la renationalisation des ressources naturelles. Or, des populations indigènes, des populations qui vivent aux endroits où sont exploitées ces ressources naturelles, des ONG, préoccupés par la protection de l'environnement, les accusent bien de procéder à la même spoliation des richesses naturelles que les gouvernements antérieurs. Et eux répondent « Oui, c'est vrai, on aimerait bien faire autrement, mais comment est-ce qu'on augmente le niveau de vie des populations sans toucher à ces richesses ?» Alors, pour conclure, on peut se poser 2 questions, il me semble. La première question, c'est « Pouvait-il faire plus ?» Je vais tenter d'y répondre. Mais il faut aussi se demander qu'ont fait les autres pendant ce temps. Alors, la première question, pouvait-il faire plus? Oui, certainement. Mais répondre oui implique de voir quelles auraient été les difficultés que soulevait une ambition, une radicalité plus importante. Ils auraient pu, par exemple, nationaliser l'ensemble de l'économie. Bon, ça c'est un beau projet, mais nationaliser l'ensemble de l'économie implique de disposer de cadres, de personnes capables de prendre les rênes de grandes entreprises, autrefois pilotées par des ingénieurs qui ne sont pas forcément sensibles à une logique socialiste. En Bolivie, par exemple, la nationalisation des ressources naturelles, des réserves de gaz, a posé problème parce qu'il fallait pouvoir continuer à avoir accès à des technologies dont le pays ne dispose pas tout seul, pour lesquelles il a besoin, pour l'instant, de faire appel à des sociétés, des entreprises, souvent transnationales, qui, elles, maîtrisent ces technologies. Protéger l'environnement. Était-il possible de décider que, dorénavant, on n'allait plus exploiter les ressources naturelles? C'est ce qu'a tenté de faire le gouvernement de Rafael Correa en Équateur. Une zone particulièrement riche de biodiversité se retrouvait au-dessus de ressources naturelles importantes. Et le gouvernement a dit, très bien, nous prenons en charge 50% du coût de la protection de cette zone si la communauté internationale est disposée à nous verser l'argent correspondant à la richesse dégagée par l'exploitation. Le projet était discuté, de nombreuses promesses de versement de fonds ont été réalisées, aucun dollar n'est arrivé. Dans ces conditions, est-il possible pour un pays tout seul, de son côté, de décider qu'il renonce à la richesse qui correspond à ses ressources naturelles? Et puis, une rupture nette avec le capitalisme, certains y sont peut-être favorables, mais qu'est-il arrivé en Amérique latine lorsque certains dirigeants politiques ont tenté de les mener à bien? On pense par exemple au Chili de Salvador Allende. Et quelques semaines seulement après l'élection de Salvador Allende, au Chili, le conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, déclarait, je le cite, « Je ne vois pas pourquoi nous devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que sa population est irresponsable. » Donc c'est ce qui s'est passé. Le 11 septembre 1973, la Moneda, le palais présidentiel, était bombardé. Alors, Le socialisme n'est pas advenu, il était peut-être possible de faire plus, il était peut-être délicat de faire plus. La deuxième question, qu'ont fait les autres pendant ce temps? Je n'y reviens pas, je pense que vos auditeurs ont une petite idée sur la question et je crois que ça a été pas mal développé par Serge auparavant.
C'était l'émission mensuelle de Là-bas, si j'y suis, avec le monde diplomatique. Merci à Serge Halimi, Franck Poupeau, Louis Humbert et Renaud Lambert. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. À la réalisation, Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer. Assistante Marina Touyès, chef du répondeur Grégory Salomonovitch. Le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis est le 01 56 40 30 37.
Allô, le conseiller gaz de France Dolce Vita?
Oui, bonjour.
Voilà, je déménage dans quelques jours et j'ai carrément oublié de m'occuper de mes contrats électricité et gaz naturel. Vous allez me dire que c'est trop tard.
Mais non, détendez-vous. Ah. Vous avez juste à vous connecter sur électricité-gazexpress.fr. Vous pouvez faire votre demande de souscription à tout moment et en quelques clics.
Oui, enfin, le souci, c'est que mon ordinateur est dans un carton.
Aucun problème, ce service est également disponible depuis votre mobile.
Mais comment vous faites, vous, pour penser à tout?
Pour un déménagement réussi, connectez-vous sur électricité-gazexpress.fr.
Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Savoie, Savoie, plan.
Cet hiver, oubliez tout, sauf de prendre de la hauteur.
Wow. Wow.
Oubliez tout, sauf le plaisir de glisser sur la neige poudreuse. Wow. Oubliez tout, sauf de randonner en raquette sur la trace des Blanchots. Oubliez tout, sauf de vous détendre près d'un bon feu. Oubliez tout, vous êtes en Savoie-Mont-Blanc. Connectez-vous sur savoiemontblanc.com.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillier, bonjour.
Bonjour, les conditions de financement de la France restent à des niveaux très favorables. La réponse aujourd'hui de François Baroin, le ministre de l'économie, à la nouvelle mise en garde de Moody's. L'agence de notation pense que la hausse des taux d'intérêt sur les obligations d'État français risque de peser sur la notation de la France. Le ministre de l'économie a souligné, lui, que le nouveau plan d'économie annoncé par François Fillon début décembre n'aurait pas d'impact sur la croissance. Il n'empêche, les marchés ne sont pas rassurés, ils sont tous dans le rouge aujourd'hui et Wall Street suit la tendance. Ouverture à la baisse cet après-midi. En Égypte, le nombre de morts des affrontements du week-end place Tahrir. Ce nombre a été revu à la baisse, les responsables des morgues s'alignant maintenant sur les chiffres du ministère de la Santé. Au total, donc, 22 personnes ont été tuées lors des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le gouvernement de Bahreïn reconnaît aujourd'hui le recours excessif à la force, notamment contre les manifestants qui réclament des réformes démocratiques. C'était lors des rassemblements au printemps dernier. C'est contraire à la politique du gouvernement, peut-on lire dans un communiqué à la veille de la publication d'un rapport dit indépendant. Les autorités de Bahreïn annoncent des poursuites judiciaires contre les policiers impliqués dans ces violences. Abdallah Al-Senoussi est-il bien aux mains des autorités libyennes? Le Premier ministre libyen affirme aujourd'hui en douter. Un porte-parole du Conseil national de transition a pourtant annoncé hier que le chef des services de renseignement de Muammar Kadhafi avait bien été capturé. Il serait, dit-on, gardé dans un lieu secret. La France demande par ailleurs qu'il soit jugé sur son territoire pour l'attentat contre le DC-10 du TA en 87, mais elle n'a pas pour l'instant fait de demande d'extradition. C'est dans moins d'une demi-heure maintenant que les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de l'Éducation vont se retrouver à Matignon. Au centre des conversations, la mort d'Agnès, cette adolescente violée et tuée par un lycéen de 17 ans au Chambon-sur-Lignon la semaine dernière. Il sera question notamment lors de cette réunion à Matignon de la question de la récidive et du suivi psychiatrique des délinquants. Le tribunal de grande instance et l'ordre des avocats du barreau de Montpellier ont signé aujourd'hui une convention destinée à mieux protéger les enfants des conflits familiaux en cas de divorce. Ce texte vise également à mieux clarifier les pratiques relatives à leur audition. La convention fixe par exemple à 8 ans l'âge à partir duquel l'enfant a le discernement nécessaire pour être entendu. Une convention similaire a déjà été mise en place récemment à Nice. Des statues religieuses retrouvées couvertes de peintures dans divers endroits des Landes, l'évêque a porté plainte. Le parquet de Dax a lui ouvert une enquête. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Jacques Delmas n'aura pas fait long feu à Perpignan. 5 mois seulement après son arrivée dans le club de rugby, il a été débarqué aujourd'hui. Motif, résultat décevant. L'USAP pointe en effet à la 8e place du top 14 et est passé complètement à côté du challenge européen. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Jeudi, France Inter poursuit son tour de France avec le quotidien Le Monde. Avant l'échéance présidentielle de 2012,
une fois par mois,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Jeudi,
en direct de Bordeaux,
à la rencontre des auditeurs.
Retrouvez la matinale de Patrick Cohen,
Pascal Clark,
rendez-vous à partir de 9h10, Downtown de Philippe Collin et Xavier Mauduit.
Bonsoir, on vous écoute.
Et le téléphone sonne d'Alain Bédoué.
Et toute la journée, participez aussi au débat organisé par le journal Le Monde autour de la fracture générationnelle. Le Tour de France de France Inter.
12 mois,
12 villes,
12 éclairages.
Venez nous retrouver jeudi en direct du Grand Théâtre de Bordeaux.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Et tout de suite Frédéric Lodéon avec son Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de partager un bon moment, je l'espère, avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, dont je vous ai déjà entretenu à ce micro, et cet orchestre qui se rassemble périodiquement. Ce sont des musiciens qui viennent de tous les horizons, ils viennent d'orchestres, ils viennent de conservatoires, ils ont des carrières personnelles, et puis ils ont la joie de se retrouver avec des chefs qu'ils choisissent eux-mêmes. C'est une phalange d'élite et qui est maintenant fort connue, elle a été fondée en 1981. Voici un extrait de la sérénade pour instruments à vent, violoncelle et contrebasse d'Antonin Dvorak, le final. We'll be right back. Conclusion de la sérénade pour instruments avant, violoncelle et contrebasse d'Antonin Dvorak par les membres de l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par Alexander Schneider. Sacha pour les intimes, qui fut un grand compagnon de Pablo Casals. Et Dvorak a écrit aussi pour les cordes. Alors on a entendu la qualité des instruments avant et les cordes évidemment sont de très haut niveau aussi à l'Orchestre de Chambre d'Europe. Voici un bien vivant scherzo.